Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h à Paris, 2h en temps universel.
Arthur Ponchelet.
À la une, dernier jour de campagne en France pour les élections législatives. Ce vendredi, Emmanuel Macron a dénoncé l'arrogance du Rassemblement National. Le parti d'extrême droite, qui vous l'entendrez, inquiète aussi les étudiants sénégalais. Joe Biden et Donald Trump débattent en ce moment sur CNN. Premier affrontement entre les deux candidats à la Maison Blanche qui s'écharpent notamment sur le sujet de l'immigration. Dans ce journal également, nous irons en Iran où on vote ce vendredi pour élire un nouveau président. Et puis les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont tombés d'accord sur les postes clés de l'UE. Sans surprise, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a été reconduite à son poste. Emmanuel Macron dénonce l'arrogance du Rassemblement National. Selon lui, le parti d'extrême droite se partage déjà les postes du gouvernement. Le ton est donc donné pour ce dernier jour de campagne officielle avant le premier tour des élections législatives. Ce sera dimanche. Ce matin, RFI vous emmène au Sénégal avec cette question. Comment les Sénégalais perçoivent-ils la possibilité d'une arrivée d'un gouvernement RN en France ? À l'université Cheikh Diop de Dakar, les étudiants ont souvent des liens avec la France, qu'ils soient familiaux ou académiques, et ils suivent la montée du RN avec inquiétude. Reportage de Juliette Dubois.
Ambiance studieuse sur un banc de l'université, Ousmane Diangar, en première année de nutrition, bûche avec un camarade à l'approche des examens, mais il suit de très près la politique française et les débats de ces dernières semaines.
Le RN prône des opinions qui divisent, notamment quand ils disent qu'ils vont éliminer les deux nationalités. Et voilà, moi aussi ça me préoccupe parce que j'ai de la famille en France et qui nous aide ici, nous qui sommes au Sénégal, et surtout leurs postes, ils sont plus... en sécurité.
Ousmane envisage aussi de poursuivre ses études dans l'Hexagone, mais il se demande si ce sera possible.
Nutrition humaine et diététique, ici il n'y a qu'un master, il n'y a pas le doctorat. Donc forcément, les pays qui sont ouverts à moi sont la France et le Canada. Et avec la France, ça sera beaucoup plus facile puisque c'est un pays dont nous avons des liens. Mais voilà, j'ai vraiment peur de ce qui va se passer pour cette union quand les extrémistes arriveront au pouvoir.
Oum Kalsoumba, elle, est en première année de droit. Elle a renoncé à envisager de se rendre en France pour une partie de son cursus.
C'était dans mes projets, mais plus maintenant. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé en France et ce n'est pas normal. J'ai peur d'être mal accueillie et maltraitée là-bas, surtout pour nous les voilés. Parce que genre, je vois certaines choses dans les réseaux sociaux nous concernant. Nous sommes marginalisés là-bas. Ça m'a donné envie de rester au Sénégal pour servir mon pays.
Selon l'OCDE, environ 160 000 émigrés sénégalais résidaient en France en 2020. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Il n'y a pas qu'en France que la campagne bat son plein. Aux États-Unis, nouveau temps fort dans l'élection présidentielle. Joe Biden et Donald Trump débattent en ce moment en Géorgie, première rencontre télévisée entre les deux candidats à la Maison Blanche. Et c'est Donald Trump qui a ouvert les hostilités. Le candidat républicain a traité son adversaire de pauvre type et de loser. Joe Biden accuse le républicain d'avoir le sens moral d'un dépravé et le qualifie de repris de justice. Le ton est donc donné pour ce premier débat. On y revient plus en longueur avec nos correspondants aux États-Unis dans RFI Matin. Pendant qu'on débat aux États-Unis, on vote en Iran. Les Iraniens sont appelés aux urnes ce vendredi. Ils doivent élire le prochain président de la République islamique. Des élections anticipées, organisées un peu plus d'un mois après la mort d'Ebrahim Raisi. Élu en 2021, après une campagne sans grande concurrence, il était présenté comme l'un des successeurs potentiels du guide suprême, Ali Khamenei. La gestion de la succession du guide suprême reste un des enjeux de cette nouvelle élection, selon la chercheuse Shoura Makaremi.
Il est possible que le président élu soit celui qui aura à gérer l'intérim et la succession de Khamenei. Il y a un flou qui entoure la succession du guide suprême pendant le gouvernorat de Khomeini, du premier guide suprême. Dès le départ, en fait, il y avait un dauphin qui était désigné. On n'est pas dans le même cas de figure là avec Khamenei, c'est-à-dire qu'il a fait bien attention à ce qu'il n'y ait aucun dauphin désigné. Il y a son fils Mojtaba, il y a aussi Raisi. Mais on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il avait mis Raisi comme président. On ne sait pas s'il l'a fait pour la position de guide suprême, puisque lui-même, Khamenei, l'actuel guide suprême, était président de la République quand Khomeini, l'ancien guide suprême, est mort. Est-ce que c'est pour ça, ou est-ce qu'au contraire, il voulait quelqu'un qui lui soit extrêmement obéissant, faible, peu charismatique, on va dire, qui ne donne pas plus d'importance à la présidence au moment de la vacance de la fonction de guide suprême, vous voyez. Et donc, en fait, on ne sait pas trop. À énormément de niveaux, les choses sont compliquées. Mais bon, ce que cette élection va indiquer, c'est en effet quels sont les choix politiques et stratégiques qui sont faits par le pouvoir iranien pour les prochaines années.
La chercheuse Shoah Makarémi au micro RFI Doriane Verdier. Pour l'Union européenne, le processus d'adhésion de la Géorgie à l'UE est de facto stoppé. Réaction à l'adoption de la loi sur l'ingérence étrangère le mois dernier. Les chefs d'État et de gouvernement européens appellent les autorités géorgiennes, je cite, à clarifier leurs intentions en renversant le cours actuel de leurs actions. Cette déclaration a été faite en marge d'un sommet à Bruxelles où les 27 se sont mis d'accord hier soir sur les postes clés de l'UE. Sans surprise, Ursula von der Leyen rempile à la tête de la Commission. Le Portugais Antonio Costa est lui nommé à la tête du Conseil européen. Et c'est l'Estonienne Kaja Kallas qui devient la nouvelle chef de la diplomatie européenne. Julien Chavanne, l'accord a été scellé malgré la colère de l'Italie et de la Hongrie.
C'était le sujet le plus sensible, les 27 ont attendu la fin de leur dîner pour parler top jobs. Giorgia Meloni et Viktor Orban ont été très clairs, ils n'ont pas du tout aimé être laissés de côté pour composer cet organigramme. Finalement, les dirigeants italiens et hongrois n'ont pas joué le bras de fer trop longtemps. De toute façon, la partie était perdue d'avance. Le trio gagnant est celui annoncé depuis le soir des européennes. Mais la suite se jouera au Parlement européen mi-juillet et ça s'annonce plus compliqué. Ursula von der Leyen aura besoin d'obtenir une majorité dans l'hémicycle. Et le soutien, ou du moins la non-opposition de Giorgia Meloni pourrait être crucial. L'Italienne s'est abstenue ce soir pour la présidence de la Commission, mais elle a voté contre les nominations de Kaja Kallas et d'Antonio Costa. Désormais, à la tête du troisième groupe au Parlement, Giorgia Meloni est bien décidée à peser plus que jamais à Bruxelles. Julien Chavanne, Bruxelles, RFI.
En Bolivie, le président Luis Arce nie avoir conspiré avec l'ex-chef de l'armée, auteur d'une tentative de coup d'État. Ce dernier a soutenu avoir fomenté son coup de force à la demande du président pour rehausser sa popularité. Souvenez-vous, c'était ce mercredi, ce militaire a tenté de renverser le président bolivien. Des chars et plusieurs hommes armés avaient occupé la place Murillo à La Paz, la capitale. C'est là que se trouvent le Parlement et le gouvernement. Ils se sont finalement retirés. Ce jeudi, l'Organisation des Nations Unies a demandé une enquête impartiale, mais aussi un procès équitable pour les détenus. La France va racheter pour 100 millions d'euros la filiale dédiée aux câbles sous-marins d'Alcatel qui appartient aujourd'hui au groupe de télécom finlandais Nokia. Les câbles sous-marins, ce sont ces câbles de fibre optique, en particulier ceux qui relient les réseaux Internet d'un continent à un autre. Cette branche d'Alcatel a été jugée stratégique par le gouvernement français qui préfère avoir la main sur cette activité, Justine Fontaine.
L'État français va racheter 80% du capital d'Alcatel Submarine Networks. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Économie ce jeudi. Aujourd'hui, près d'un tiers des câbles sous-marins déployés dans le monde ont été posés par cette branche du géant finlandais Nokia, qu'il avait acquise en 2015, en même temps que le reste de l'entreprise de télécom française Alcatel. La France considère que cette activité est stratégique et n'a pas souhaité qu'elle soit revendue à des sociétés américaines ou japonaises qui faisaient partie des repreneurs potentiels. Si ce domaine est perçu comme sensible, c'est parce que près de 99% des communications Internet transitent par des câbles sous-marins de fibre optique, soit d'un endroit à un autre d'un même pays via ses côtes, soit le plus souvent d'un pays à l'autre et même d'un continent à l'autre. Les concurrents d'Alcatel Submarine Networks et de ses 2000 salariés sont américains et japonais donc, mais aussi chinois, tandis que les câbles en eux-mêmes appartiennent dans la majorité des cas aux GAFAM pour Google, Amazon ou encore Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram.
Justine Fontaine, et plutôt ce mois-ci, la France avait déjà fait une offre pour acheter les activités stratégiques du groupe Atos, chargé de la cybersécurité des Jeux Olympiques de Paris. Les Jeux Olympiques, c'est dans moins d'un mois, et les abandons s'enchaînent pour plusieurs athlètes. Forfait pour l'américaine Sky Blakely, la double championne du monde de gymnastique, s'est blessée au tendon d'Achille. Forfait aussi pour la sprinteuse jamaïcaine Helen Thompson-Herah, championne olympique en titre des 100 et 200 mètres. La quintuple médaillée d'or s'est blessée lors d'une course début juin à New York. Conséquence, elle ne pourra pas participer aux sélections jamaïcaines. C'est donc une véritable chance de médaille qui s'envole pour le pays. Il est 4h10, ici à Paris, tout de suite, 8 milliards de voisins sur RFI.